protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Stéphane Chénery. Ou plutôt, c'est lui qui nous reçoit puisqu'il gère le carrousel où nous avons nos locaux, ici à la radio. Alors merci Stéphane de nous recevoir et d'avoir accepté de répondre à quelques questions.
Bonjour Yolande, bonjour.
Vous savez qu'ici, un protestant peut en cacher un autre, nous nous intéressons aux itinéraires des personnes, donc plus ou moins liées au protestantisme. Alors, mes premières questions sont indiscrètes, puisqu'elles concernent votre background, comme on dit, protestant, si vous l'êtes. Alors, première question, êtes-vous issu d'une famille protestante ?
Non, je suis de culture catholique, hein, on peut le dire ainsi. J'ai été élevé dans la culture catholique et je suis venu au protestantisme progressivement durant ces, on va dire, 20-25 dernières années, oui, depuis que je suis à Montpellier, oui, en quelque sorte, oui, depuis l'âge, depuis que j'ai environ 30-35 ans, oui, je suis venu au protestantisme. En fait, d'abord par l'Institut de protestant de théologie,
oui,
hein, les cours publics,
oui,
les cours. Ensuite, j'ai suivi quelques petites formations un peu plus approfondies. Et donc, c'est par la théologie, par la fac de théo que je suis venu au protestantisme.
C'est intéressant parce que moi j'ai eu un peu le même parcours puisque je suis venu aussi du catholicisme et moi c'est par l'histoire. Voilà, donc, et en fait c'est Montpellier en fait, c'est
oui,
la forte présence protestante de Montpellier qui a aidé.
C'est ça, et puis c'est la personnalité de professeur charismatique,
ouais,
et vraiment très très intéressant, comme Jean-Daniel Cos, Elian Cuvillier, voilà, des personnes comme ça qui ont fait que oui, ça, j'ai adhéré petit à petit et je me suis très rapidement retrouvé dans la doctrine protestante. Oui.
Et alors pourquoi avoir, si c'est pas trop indiscret, mais bon, de toute façon, si je pose des questions trop indiscrètes, il faut me dire non, je réponds
d'accord,
pas. Il y en a déjà qui me l'ont fait. Je me dis non, je réponds pas. Donc, bon. Pourquoi avoir fait l'IPT dans le but de devenir pasteur
ou
simplement de culture ?
Pas du tout. Non, c'est juste. Oui, c'est une curiosité. Bon, c'est par mon épouse qui suivait, elle, des cours pendant un temps, des cours approfondis. Et puis j'y suis venu donc aussi par intérêt personnel et par intérêt sur les études bibliques et la vision protestante de ces textes, oui.
D'accord, donc c'est en fait la foi protestante qui est venue,
oui,
et pas du tout,
oui,
pas du tout d'héritage.
Non, il n'y a pas de rejet manifeste et violent de la catholiques issus de culture catholique. Non, c'est pas mon cas. Je ne me retrouvais plus dans l'Église catholique, mais je ne rejette pas et j'ai des, disons que j'ai beaucoup d'actions actuellement. J'ai beaucoup d'actions qui se situe dans le cadre œcuménique.
D'accord.
Hein, et,
oui,
et
pas,
voilà,
pas de rancune, pas de
non.
D'accord.
Non, non.
Et donc, maintenant, vous vous retrouvez au carrousel. Alors,
et oui,
pourquoi ? C'est les hasards de la vie professionnelle ou c'est un désir d'être plus au centre de la vie protestante ?
Alors, c'est pas un hasard. Hein. Là aussi, c'est un chemin progressif. Hein. Donc, je me suis engagé progressivement d'abord dans l'Église protestante, hein, dans le secteur mère et vigne,
oui,
qui était impulsé par Luc-Olivier Bossé,
oui,
un pasteur aussi très charismatique et très entraînant, qui m'a entraîné dans beaucoup de chemins très, très positifs et très enrichissants.
Oui.
Et parmi ces chemins, donc, il y avait le carrousel, puisque lui est été. Hein, il n'est pas très loin, mais il est...
Il est où actuellement, donc ?
Il a pris une retraite sabbatique dans un village pas loin de Montpellier.
Ah, d'accord.
Pour faire des travaux personnels.
D'accord.
Voilà. Mais il est toujours là, oui.
Ah bon, bah, c'est bien.
Je pense qu'il nous écoutera.
D'accord. Oh, bah, bonjour Luc Olivier, bonjour. Si vous nous écoutez.
Voilà, donc lui, il était partie prenante du projet Carousel depuis son arrivée, hein, c'est-à-dire depuis 2010, donc très très en amont du projet, puisque le projet Carousel, c'est un projet qui date de la fin des années 2000, hein, 2007-2008, et lui est arrivé donc et a été chargé ou s'est positionné comme aumônier du Carousel. Il était chargé donc de donner une dimension spirituelle et de trouver, enfin de mettre l'Église au cœur de ce projet Carousel.
Et ben justement, ça nous donne l'occasion d'expliquer un petit peu ce que c'est que ce Carousel. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Oui. Vous pouvez nous en dire deux mots ou...
Oui. Alors le projet Carousel, c'est donc un projet immobilier avec différents partenaires divers, mais qui a pour objet d'ouvrir l'église protestante et l'église Lépumin en particulier, l'église de Montpellier, sur la cité,
oui. Hein,
de la faire rayonner, d'en faire un espace de rencontre pour l'ouvrir sur la diversité, sur d'autres publics. À partir du constat que l'Église parfois a un peu tendance à
se refermer sur elle-même à être considérée comme étant refermée sur elle-même.
Oui, se refermer, mais surtout peut-être fonctionner en vase clos sur ses petites habitudes. Donc là, il s'agit un peu, il s'agit vraiment d'ouvrir hein, sur d'autres publics. Et voilà, c'est
mais
ce
je me faisais la réflexion que peut-être justement le fait de venir d'ailleurs que du protestantisme, de ne pas être né dans le microcosme protestant, pouvait aussi aider à faire sortir le protestantisme de ce cocon un peu historique.
Oui, mais c'est une ouverture aussi sur plein d'autres univers, hein, donc que je ne connaissais pas.
Oui.
C'est aussi pour moi personnellement une ouverture sur un quartier, sur une ville avec un foisonnement d'associations en tout genre.
Oui, alors les associations, il y a la CIMAD, il y a toutes sortes d'associations humanitaires.
Alors il y a des associations qui viennent ici, oui, il y a les associations traditionnelles de l'Église protestante, hein, la FEP, l'association familiale d'entraide protestante qui gère Babel Café ou l'épicerie solidaire Panier Babel. Donc ça c'est un peu le microcosme, comme vous dites, protestant. Mais il y a aussi donc le quartier, hein, toutes les associations. Très dynamique, hein, au niveau culturel ou social.
Oui, parce que Gambetta, c'est assez coloré. C'est un quartier qui est vivant, c'est un quartier avec plusieurs communautés.
Oui.
Et alors, vous vous sentez bien, vous sentez faire partie de ces communautés, comment vous interagissez avec eux
Très bien, oui. Alors, moi, mon rôle, c'est justement de les faire venir au Carousel et de s'ouvrir vers elles. Et le rôle du Carousel, alors, je précise un peu aussi, c'est... Alors, il y a une part de résidences sociaux, hein, donc, puisqu'il y a une résidence sociale avec 48 logements et une pension de famille avec 28 logements. Donc au total, il y a à peu près une centaine de personnes d'horizons très différents. Hein. Pour la pension de famille, c'est des personnes un peu plus âgées qui ont des parcours de vie assez compliqués et qui sont là à demeure. En résidence sociale, c'est des jeunes femmes seules ou avec enfants, ou des jeunes qui viennent là aussi temporairement pour dans une phase d'insertion dans la société. Donc c'est des publics très différents. Et l'objet de notre association, nous, Carousel, ça a été justement de faire le lien entre ces résidents et le quartier d'une part et l'église d'autre part. Voilà, ce qui a été voulu, c'est ne pas reconstruire, refaire une espèce de ghetto de logement social comme ça peut exister.
Oui,
hein.
oui.
Voilà. Et puis c'était en plus une nécessité dans le quartier, parce que dans le quartier Gambetta, il y a beaucoup d'actions sociales et ça a été une nécessité de montrer que ce projet Carousel s'ouvrait, donnait quelque chose de nouveau, apportait quelque chose au quartier. Voilà, donc c'est ça notre rôle à nous, de faire en sorte que les résidents participe à la vie du carrousel et au-delà, donc avec les associations qui viennent au carrousel, participe à la vie du quartier.
D'accord. Et effectivement, le carrousel, ce qui frappe, c'est ces entrées, ces sorties. Vous avez un centre de soins aussi.
Oui, oui.
On a l'impression qu'il y a presque tout, enfin, qu'il y a presque... en tout cas, dans le domaine social.
Alors, on a la prétention de vouloir être un tiers-lieu. Alors, la définition est un peu floue, hein, tiers-lieu, chacun un peu sa définition. Mais c'est un lieu différent, justement, ou différent de ce qu'on a à la maison, différent de ce qu'on a au travail, pour justement s'ouvrir et se rencontrer, oui. Oui.
Et c'est amusant parce que, en fait, je ne voulais pas spécialement vous interroger sur le carrousel, mais plutôt sur vous. Et puis, je vois que finalement, vous préférez parler du carrousel et peut-être qu'on vous connaît mieux quand vous parlez du carrousel parce qu'on sent que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de...
Oui, oui. Alors, comment je suis venu au carrousel, hein, puisque vous m'avez posé la question, je vais y répondre. Donc... dans le sillage de Luc Olivier, hein, donc il faut bien le dire, c'est ça. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné l'envie de participer à ce projet. J'ai participé à l'association Carrousel, qui existe depuis plus de 15 ans, hein, depuis le 2007, et qui avait pour objet de préfigurer le projet Carrousel, de le définir, de trouver des partenaires. Chaque année, ils ont fait un dîner de gala justement pour essayer d'inviter des personnalités et la communauté protestante de l'intéresser à ce projet-là. Donc cette association avec d'autres personnes comme Alain Bienvenu ou Claire Bosque, donc ont beaucoup travaillé pendant plus de 15 ans à élaborer ce projet. Moi, j'y suis venu un peu sur le tard, donc je pense que c'est dans les 2018, je ne sais pas, par là, donc ça fait 4-5 ans.
C'est bien lancé maintenant.
Le projet est venu à bout, donc c'est sorti de terre avec quelques difficultés, le permis de construire, la construction.
Oui,
donc en mars 2023, donc ça a été inauguré.
Oui, enfin, c'est récent.
Ça s'est mis en place il y a un an et demi. Et puis, on a commencé au sein de l'association à réfléchir sur comment on allait l'organiser, le gérer, ce lieu. Et on a commencé à réfléchir à quelles personnes il faudrait pour l'animer et aussi en faire la gestion.
Et donc, c'est tombé sur vous.
Et bien, Luc Olivier m'a dit... On a commencé à faire une fiche de poste. Hein, donc, j'ai participé à l'élaboration de ma propre fiche de poste.
Okay.
Et puis, Luc Olivier m'a dit un beau jour, mais pourquoi pas toi? J'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas moi? Moi, je suis à 2-3 ans de la retraite, donc j'avais une forte envie d'activités différentes de mon métier traditionnel.
D'accord.
Qui était plutôt solitaire. Et j'avais envie d'un métier qui m'ouvre sur les autres.
Voilà, là, au niveau relations, c'est gagné. Parce que, alors, je le dis à nos auditeurs, venez au carrousel.
Oui.
Vous verrez une équipe sympa, accueillante. Vous verrez du monde. Et il y a vraiment des affiches partout. Vous trouverez des rencontres, des conférences, des livres à lire, enfin bon, venez au carrousel, donc 4 rue Saint-Barthélemy, c'est ça
9 Courgambetal, l'entrée du public est 9 Courgambetal, l'adresse justement des résidents, du centre de santé et de la radio, c'est 4 rue Saint-Barthélemy.
Voilà, c'est un clin d'œil d'ailleurs, rue Saint-Barthélemy pour des protestants, mais bon.
Mais je fais aussi un petit encart avec Maria William, le vendredi à 9h30, donc en direct sur la radio. Je vous présente chaque vendredi le programme hebdomadaire du carrousel.
D'accord, d'accord. Alors en fait, moi je vous avais invité au départ, je n'avais pas remarqué que vous étiez le directeur du carrousel, mais parce que j'avais vu le groupe Dieu est-il écolo.
Oui.
Donc j'avais vu que vous étiez responsable de ce groupe qui réfléchissait là-dessus. Alors le titre, moi j'aime bien les titres qui choquent. Enfin, c'était pas mal. On peut pas répondre oui ou non. Je pense pas que vous allez nous dire si Dieu est écolo ou si Dieu n'est pas écolo. Mais on peut, c'est un peu comme quand on dit Dieu est-il protestant. Bon, on peut pas répondre oui ou non. Encore qu'on peut dire que pas vraiment. Mais comment est venue cette idée d'ailleurs, d'abord de réfléchir sur l'écologie en lien avec avec Dieu, avec la foi.
Alors c'est venu d'une d'une démarche Église verte, hein, dont je pourrais vous parler un petit peu. Donc et qui a été, c'est une volonté du secteur mère et vigne de l'église protestante, de l'EPUMA. Ouais.
Mère et vigne, c'est Cournanterral, Pignan, Moggio.
Latte-Morin.
Latte-Morin, d'accord.
Pas Moggio, mais Latte, okay. Saint-Jean-de-Védas, La Vérune.
D'accord.
Voilà, tout le sud et tout l'ouest de Montpellier.
Ok.
Et donc ce groupe-là. À un moment donné, il y avait chacun des secteurs devait choisir un thème de réflexion, un thème d'action prioritaire.
Ouais.
Donc, je sais que le centre-ville a choisi la liberté, par exemple.
Ouais.
Et puis, nous, au secteur mère et vigne, hein, sous l'impulsion de Luc Olivier, toujours lui,
ouais,
et de Clotine Albrecht.
J'espère qu'il va nous écouter parce que, ça, voilà, il entendra parler de lui.
Claudine, qui était notre présidente jusqu'à l'année dernière. Donc on
et
a
Claudine,
choisi.
Donc bonjour Claudine.
On a choisi ensemble, notre groupe, le thème de l'écologie. Et
ouais,
on a adhérer à la démarche Église verte, donc dont je pourrais vous parler. Et puis parmi les actions, parce que donc il y avait une part de réflexion, mais il y a une part d'action. Mais dans la part de réflexion, on avait décidé de créer un groupe de lecture et de réflexion sur Bible et écologie. Et on avait choisi comme support de lecture.
Ouais.
Le livre de Didier Fievé, qui s'appelle « Bible et écologie, questions croisées », paru aux éditions Olivetan, avec des chapitres, chaque chapitre, sur une lecture, une vision, notamment des grands thèmes de la Bible.
Oui, parce que la Bible, comme ça, si on n'a pas vraiment creusé, il n'y a pas beaucoup d'écologie dans la Bible.
Eh bien, si.
Ah bon?
Si.
Alors ça, c'est
si.
Une découverte, parce que moi, j'étais restée à la Genèse où Dieu dit, bon bah, en gros, il dit à l'homme, tu fais ce que tu veux avec la nature et puis tu la soumets.
Tu la contrains.
Voilà, j'ai une lecture,
oui,
peut-être un peu trop, pas assez appuyée. Pas assez,
oui,
ben, voilà.
mais alors malheureusement, enfin, beaucoup de gens s'arrêtent à ce verset de la Bible, là,
okay,
qui est très controversé, effectivement. Hein, donc... c'est vrai, hein, quand on dit soumettez la terre.
Voilà, je te donne domination, etc. Bon,
oui,
j'ai
oui,
pas
oui,
le texte
oui,
exact biblique en tête, mais enfin bon. Et donc, il y a d'autres.
Alors, ce texte-là, bon, il faut le dépasser. C'est vrai qu'il faut le
ouais,
faut le prendre comme il est. Il est choquant, hein, il est très perturbant,
ouais,
mais bon, comme beaucoup de passages de la Bible,
oh, oui,
il est daté. Il
oui,
est, voilà,
oui,
il,
oui,
faut, il faut se
oui,
dire
oui,
que c'est, ça date d'un temps, ça a été écrit par des hommes. Hein,
bien
la
sûr,
Bible a été écrit
oui,
par des hommes, où la nature, le milieu naturel était hostile,
oui,
hein, donc il fallait se
ouais,
défendre par rapport à la nature.
Ouais.
Hein, donc, voilà, ça a peut-être été écrit comme ça à ce moment-là. Bon, on peut...
Mais c'est toujours utile de rappeler que dans la Bible, il y a des choses qui sont d'ailleurs pas toujours
et
très
oui,
jolies.
Oui, oui.
Il y a même des choses abominables.
Oui.
Il y a des choses qui sont discutables. Il y a des erreurs de traduction. Il y a des erreurs. Et puis ça a été
oui,
écrit par des hommes à un moment historique.
Voilà.
Donc merci
voilà,
de le rappeler.
Donc la traduction, là, on a beau aussi tourner les choses un petit peu comme dans tous les sens. Là, le verbe soumettre est soyez féconds, multipliez, remplissez la terre.
Oui.
On a beau les traduire, essayer de les traduire avec des mots plus doux, non.
Ça reste comme ça. Oui, mais c'était une période où on pouvait dire aux
voilà,
gens soyez féconds, ce qu'on peut plus
voilà,
trop dire
oui,
maintenant parce
ça,
que
la démographie n'est pas la même.
Voilà.
Hein, c'est tout à fait exact. Oui.
D'accord.
Oui.
Et
voilà,
alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence biblique
Alors, ce livre de Didier Fievé, hein, donc, que je recommande à nos auditeurs, hein, qui est vraiment très, très percutant, très, très intéressant, avec une, une préface de d'Élian Cuvillier aussi qui est fort intéressante, reprend donc tous les grands mythes de la Bible, hein, donc
par exemple
les grands récits, le premier récit de la création, le oui. deuxième récit de la création, le jardin d'Éden, alors par exemple la tour de Babel,
oui,
hein, voilà, donc c'est la tour de Babel, c'est les hommes qui construisent une tour pour se
mettre au niveau de
voilà,
Dieu,
pour se hisser au niveau de Dieu,
oui.
Et c'est la volonté d'être aussi puissant, voire plus
oui,
puissant,
oui, oui.
Plus puissant
c'est
que Dieu.
C'est l'hubris humain, quoi.
Et en termes d'écologie, on peut faire le rapprochement avec certains écologistes aussi, ou certaines personnes qui pensent que la société technicienne,
ouais.
le technicisme va nous sauver.
Oui, oui, oui.
Et qu'il faut donc que c'est grâce, en construisant des usines à gaz, des choses merveilleuses, qu'on arrivera à s'en sortir.
Ouais.
Voilà. Et Dieu, ben non, il détruit cette volonté-là. Donc c'est bien donc là aussi un signe donc de ça, hein, donc
oui, d'accord. On va faire une petite pause musicale,
oui.
Et puis on va voir ensuite les thèmes justement que vous avez trouvés qui vont un petit peu dans le sens inverse. Alors vous nous avez choisi donc The Passers-by de Géraud, qui est le texte de Brassens,
oui,
là,
Les Passantes.
C'est très joli.
Très connu des Passantes,
de
Brassens.
Et pourquoi vous avez...
Non, parce que j'aime beaucoup cette chanson de Brassens, là.
Une raison suffisante.
Et puis, j'adore cette version de Géraud qui a repris donc les textes, traduit les textes en anglais qui sont fort bien, je trouve. Et puis la rythmique aussi de la chanson de Brassens qui est vraiment mise en valeur, je trouve.
D'accord, eh bien, on écoute ce morceau.
I sing you a song that I offer to all of the women you love for. Secret time to those that you scarcely admit when a different destiny led them to places you can't even find. To her that you saw for an instant appear at her window quite distant. Gracefully faded for all time, but filled you with joy. Come to stay. To her on the train you were traveling, whose beautiful eyes left you marveling and shortened the journey so much. Perhaps you're understood her, you watched her get out, but you couldn't even give a soft hand one last touch. The woman already bespoken, who find that their lives are mere talking for someone that seems not to care. In a moment of madness, describe the unbearable sadness when life holds our only despair. The visions once glimpsed and idealized, the shortest light hopes never realized, remain in our minds just one day. Takes you tasted. You wish with regret that you tasted. You know what this joy might have been. The kisses you did not discover, the hearts that await you forever, those eyes and their glances. When weariness lengthens your evenings, you people your solitude grieving with phantoms your memory retains. On absent lips of these countless fair passes by briefly encountered, you didn't know how to detain.
Sur Radio FM+, dans Un protestant peut en cacher un autre, avec Yolande au micro, qui reçoit Stéphane Chénery. Alors Stéphane, on va continuer donc sur les thèmes bibliques et l'écologie.
Oui. Oui, oui. Alors, on a parlé rapidement. Alors, je fais ça de mémoire, hein, parce que je ne me rappelle plus bien de tout ce qu'on a dit au sein de ce groupe. Voilà, ce que je me rappelle effectivement, c'était la référence par rapport à Babel de la société techniciste, hein,
ouais.
Donc, et le danger qui a tombé là-dedans. Un autre texte aussi, si je me rappelle bien, qui fait référence à cette notion de technique et de danger de la technique, enfin de l'impact de la technique,
ouais.
c'est le déluge avec
oui.
Noé.
Oui.
Parce que Noé, à un moment donné, enfin, dans le récit, il est chargé par Dieu donc de
sauver.
De sauver
oui.
Il trouve grâce aux yeux du Seigneur et le déclare juste. Hein. C'est,
oui.
c'est lui qui est choisi donc pour,
oui.
pour comme mission de sauver les espèces.
Ouais.
Et il construit un bateau. Donc
ouais.
Contrairement à Babel, c'est le signe que la technique peut être mise au service de la vie aussi.
D'accord.
Et du salut. Voilà, donc c'est ce dont je
oui,
me rappelle.
Oui.
Voilà.
Mais c'est intéressant cette histoire
oui,
de
oui.
Noé, parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'espèce humaine, il y a toutes les espèces, et l'espèce humaine n'est qu'une partie de ce qui sera sauvé aussi.
Voilà.
Donc,
et c'est une relecture humaine de toute catastrophe naturelle, en fait. C'est,
oui.
c'est un sentiment que l'on a, hein, très profond chez nous aussi, hein, qui est peut-être moins maintenant où on est un peu dans une société aseptisée où les risques naturels, les inondations, sont moins présents dans notre esprit.
Oui, ça revient. Hein,
ça revient. Ben
ça
oui,
revient.
Oui, oui,
oui.
Ben oui, avec le réchauffement
ben
climatique,
voilà,
ça,
ouais.
ça revient. Et
ouais.
c'est tout l'intérêt d'ailleurs de la réflexion sur ce sujet-là. Mais, et voilà, c'est aussi par rapport à ces catastrophes naturelles là, qui vont se développer. Et Noé, enfin, il me semble que ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'on ne s'en sort pas individuellement.
Oui.
On va s'en sortir collectivement.
Ouais.
Voilà. Et c'est les espèces. Donc voilà. Et c'est pas non plus en construisant son petit abri anti-atomique ou son
oui.
petit abri
oui.
Au
oui.
sommet d'une montagne préservée de toutes les catastrophes qu'on va s'en sortir. Quoi. Là, on s'en sort collectivement. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai...
Mais notre société actuelle, bon là je fais peut-être une petite divergence, notre société favorise la recherche de biens matériels et de la surconsommation. Alors est-ce que une pensée spirituelle comme celle des religions ne devait pas ne doit pas finalement aboutir à se détacher de cette quête effrénée de la consommation. Et donc, finalement, ça doit aboutir à quelque chose d'écolo. Enfin,
de la surconsommation et de la puissance aussi. Moi, on a aussi pas mal réfléchi sur les travaux de Jacques Ellul.
Oui,
sur la notion de non-puissance, justement.
Ouais.
Entre puissance et impuissance, il existe une troisième voie qui est la non-puissance, c'est-à-dire la volonté de ne pas exercer la puissance que l'on peut avoir.
Oui, d'accord.
Voilà. Et on en est là au niveau écologique actuellement. On a les pouvoirs de détruire la planète.
Oui, oui, oui.
On a les pouvoirs de racler le fond des océans pour éliminer toute espèce de poisson. On a le pouvoir de brûler tout le pétrole.
Oui. On a le pouvoir aussi de ne pas le faire.
Et on a le pouvoir de... Il ne faut pas le faire.
Oui, oui,
il faut exercer son pouvoir.
Et c'est le but de votre mouvement
Alors, et ce que dit Jacques Ellul et Frédéric Rognon aussi qui a prolongé cette idée-là, Jésus est vraiment le symbole de la non-puissance.
Oui.
Parce qu'il avait le pouvoir de devenir roi, avait le pouvoir de faire que le peuple se révolte contre les Romains, contre les puissants. Et il a choisi de ne pas l'exercer. Pour moi, c'est un modèle.
D'accord.
C'est un modèle.
Effectivement, là, on dépasse complètement la lecture littérale, parce qu'on peut dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas tellement de côté écologique.
Oui,
Jésus ne semble pas s'en préoccuper.
Non.
Mais effectivement, avec cette vision de la non-puissance, là, on peut relire effectivement le Nouveau Testament.
Oui, tout à
fait. Merci d'avoir donné cette nouvelle lecture, parce que je n'y avais pas pensé, je ne connaissais pas ce...
Écoutez, je vous invite à...
Oui.
Et puis, donc, il y a aussi un théologien protestant qui s'appelle Martin Kopp, que l'on avait invité l'année dernière au Carousel, dont je vous invite à voir les vidéos, des conférences. C'est passionnant. C'est vraiment quelqu'un qui apporte beaucoup sur une vision protestante qui fait le lien aussi avec des thèmes actuels du féminisme.
Et localement,
alors Église verte, c'est un mouvement qui existe.
Alors répétez, l'Église verte.
Église verte.
Église verte.
Alors c'est un mouvement national œcuménique qui a été mis en place, lancé en 2017 par un mouvement donc... alors il y avait la Confédération des évêques de France, il y avait l'Église orthodoxe, il y avait aussi...
Il y a la Fédération protestante de France.
Oui. Donc, ça s'est mis en place suite à la COP21 de 2015, qui a vraiment initié un mouvement quand même dans le monde et en France en particulier sur l'écologie. Il y a eu aussi l'encyclique du pape,
La
date aussi en 2015, si je me rappelle bien, qui a aussi marqué beaucoup. Le pape a produit un texte très fort. Oui, et qui a eu beaucoup d'impact.
Oui.
C'est au moins l'avantage du pape, c'est quand il parle.
Ah ben, c'est sûr que c'est différent que quand c'est le président du Conseil national de l'EPUDF. Bon.
Tout à fait.
Même s'il
y a quelques chapitres de la droite aussi avec lesquels je ne suis pas trop d'accord.
Oui, je me doute.
Bon,
et alors, qu'est-ce qu'on y fait cette église verte ?
Donc, c'est un mouvement national œcuménique qui se décline donc localement. Et c'est un mouvement qui incite à l'action et à la réflexion sur le thème de l'écologie, initialement dans les paroisses et les églises locales.
D'accord.
Donc, ils ont imaginé un système de labellisation.
Ouais.
Donc, on a des différents labels. Donc le thème, la notion de label est un peu contestable.
Fait ce qu'on peut avec les outils qu'on a.
Voilà. Mais au moins, moi, je préfère parler de démarche Église verte plutôt que de label Église verte, parce qu'on n'a pas besoin d'un label, on n'a rien à vendre. Mais bon, je préfère effectivement avoir une démarche, et il y a certains paliers qui sont franchis. Donc, On nous propose, donc on fait un diagnostic de, ouais, notre situation en tant qu'église, hein, sur différents thèmes, les bâtiments, l'engagement local, les modes de vie, la célébration et le catéchisme. Voilà, donc la catéchèse, donc comment on concrètement, sur les bâtiments, quelle consommation d'énergie on a? Est-ce qu'on a des lampes basse consommation? Ça va donc sur tous les thèmes.
Oui, ça va sur les thèmes extrêmement pratiques. Voilà. Et en même temps, il y a le côté, voilà, réflexion et le côté, oui, prière, je me doute.
Oui. Et sur le côté réflexion, il y a est-ce que le pasteur ou le prêtre, hein, dans une église,
oui, oui,
catholique, fait une prédication quelques fois par an sur le thème de l'écologie.
Donc d'accord. Et là, bon, ben, il ne nous reste plus que quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous donner des rendez-vous ou des choses est-ce que vous pouvez inviter les gens? Est-ce que vous voulez inviter les gens à participer à des choses
Oui. Alors, sur Église Verte, donc, on a un groupe Église Verte Hérault, hein, avec notamment une newsletter très intéressante sur l'actualité de l'écologie et des églises. Donc là, vous pouvez trouver aussi des liens pour adhérer.
Donc Église Verte, il faut Église taper Verte. Église Verte Hérault, oui, sur Internet, oui, et vous aurez les,
oui,
liens.
Oui,
d'accord.
Oui, oui. Au niveau de l'EPUMA, nous souhaitons relancer notre fameux groupe
Dieu est-il écolo,
Dieu est-il écolo,
okay, hein,
donc, et qui va se poursuivre aussi, on l'espère, par des émissions de radio, hein, avec,
oui,
dans le prolongement,
ben oui,
je ne l'ai pas dit, hein, mais dans le prolongement de ce groupe de lecture, on a produit une dizaine d'émissions de radio avec Luc Olivier Bossé et Délie,
ouais,
Fraisse,
d'accord,
que j'engage les auditeurs à trouver sur le site de FM+,
ouais,
ou sur Google, ils les trouveront encore plus facilement.
D'accord.
Voilà. Donc, et puis, on veut là donc relancer ce groupe. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour réfléchir sur ces thèmes écologiques, écologie et foi, on est tout à fait,
d'accord,
disposé à le relancer.
On peut dire aussi à nos auditeurs qu'ils peuvent contacter la radio s'ils,
oui,
veulent, ou le carrousel,
oui,
s'ils veulent de plus ample information. Bon, ben, il me reste à vous remercier. Alors, merci Stéphane.
Merci Yolande.
Merci aux techniciens, donc à Yann, qui veille sur nous avec compétence. Et nous retrouverons nos auditeurs la semaine prochaine à la même heure. Alors, toujours pareil, hein, si vous avez des réactions, des questions, des gens, des propositions de participation, soit pour vous, soit pour d'autres, merci de les envoyer à un protestant peut en cacher un autre, @radiofmplus.org, tout attaché, et le plus avec des lettres, et non le symbole. Voilà, ben, à la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.